VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Ici à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. RDC, les élections présidentielles, législatives et provinciales fixées au dimanche 23 décembre 2018. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rendu public dimanche soir le calendrier électoral. Un calendrier qui est loin de faire l'unanimité parce qu'aussitôt rejeté par les principaux partis politiques de l'opposition. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
23 décembre 2018, c'est la date à laquelle les Congolais iront voter pour élire non seulement leur nouveau président de la République, mais également renouveler l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. La Commission électorale nationale indépendante a donc mis fin au suspense en publiant le tant attendu et réclamé calendrier électoral ainsi que les principales dates jusqu'au scrutin. On sait par exemple que c'est le 23 juin prochain que doit être convoqué l'électorat et qu'après son élection, le nouveau président de la République prêtera serment le 12 janvier 2019. Toutefois, en publiant le calendrier électoral, le président de la CENI a également évoqué une série de contraintes qui concourent à la réussite de ce calendrier. Corneille Nanga a par ailleurs appelé toutes les parties concernées à s'impliquer pour pouvoir tenir le délai. En réaction à ce calendrier, l'UDPS parle de distraction. Le parti d'Étienne Tshisekedi maintient la position exprimée par Félix Tshisekedi la semaine dernière d'une transition sans Kabila en cas de non-élection au 31 décembre 2017. Calendrier électoral rejeté également par Eve Bazaïba, la secrétaire générale du Mouvement de Libération du Congo, ainsi que par Moïse Katumbi, qui parle d'un calendrier fantaisiste. La majorité présidentielle, par contre, prend acte de ce calendrier et appelle l'ensemble de la classe politique à s'impliquer pour qu'il soit appliqué. Henri Movasakani, le secrétaire général du PPRD, parti présidentiel, parle de ce calendrier comme un bond en avant. Enfin, Joseph Olingankoy, le président du CENSA, Commission nationale de suivi de l'accord, parle d'un calendrier, je cite, consensuel et réaliste. Fin de citation. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Mali, 11 militaires prisonniers d'un groupe djihadiste ont été tués fin octobre dans la région de Kidal après un raid antiterroriste de l'armée française. Le point avec Jean-Roger Bion.
Nous avons assez d'éléments pour le dire. Début octobre, nous avons reçu des preuves de vie de nos militaires capturés par les terroristes. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, après un raid antiterroriste, nos militaires ont été tués. Nous avons échangé avec les Français sur le sujet, a déclaré dimanche à l'AFP un responsable du ministère malien de la Défense. Des photographies des corps des soldats maliens tués ont permis de confirmer leur identité. Les soldats maliens tués étaient détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation djihadiste née de la fusion de plusieurs groupes du Sahel et dirigée par le Touareg malien Yad Aghali. Après cet incident, l'état-major des armées françaises avait indiqué qu'un groupe armé terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, a été mis hors de combat et 15 djihadistes tués par l'armée française dans le nord du Mali. Quelques 4000 militaires français sont déployés dans la bande sahélo-saharienne, une zone vaste comme l'Europe, dans le cadre de l'opération Barkhane.
Au Tchad, le secrétaire général des magistrats tchadiens devait comparaître la semaine dernière devant le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir déclaré en 2016 que l'état de droit était en vacances au Tchad. Pendant ce temps, les magistrats entament la deuxième semaine de leur grève sèche pour exiger entre autres le renouvellement du bureau du dit conseil arrivé à terme il y a plus de deux ans. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
L'atmosphère est tendue ce vendredi devant la Cour suprême de N'Djamena. Les magistrats qui ont accompagné leur collègue Djonga Arafi ont été bloqués à l'entrée principale de la Cour suprême par les forces de l'ordre en faction. Sauf ses avocats ont eu accès dans la salle d'audience. Après une heure et demie d'horloge, ils ressortent de la salle d'audience en faisant un V en signe de victoire. Maître Alain Kagombe, l'un des avocats.
Le dossier mis en délibéré sur la question préjudicielle. Nous avons soulevé l'incompétence du conseil qui est arrivé à terme de son mandat. Voilà, il y a déjà deux ans. Et le dossier mis en délibéré au 3 janvier 2018.
pour Alara Kété Sanenga, président du syndicat des magistrats du Tchad, le bureau illégitime du Conseil supérieur de la magistrature a trouvé une esquive.
L'honnêteté intellectuelle aurait voulu qu'ils disent oui, nous ne sommes pas compétents, donc nous ne serons pas reçus. Mais là aussi, c'est un premier pas, mais on n'en est pas encore fait. Notre grève était déjà décidée pour 2 semaines. Donc nous finissons nos 2 semaines de grève.
Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Midaï Guéribaï, estime que la situation que traverse la justice tchadienne aujourd'hui est sciemment entretenue.
Comment vous allez comprendre qu'au bout d'une année, l'État n'est pas à même de payer les frais consécutifs à la tenue d'une réunion permettant de procéder au renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature? À ma connaissance, c'est qu'il y a une volonté réelle de pouvoir retarder une justice sereine, indépendante et libre. Parce que si la justice est libre, tous les voleurs, tous les racistes qui défient l'État publiquement vont se retrouver aux maisons d'arrêt.
Cependant, le ministre de la Justice, Ahmad Mahmoud Hassan, invite les magistrats à lever la grève, car, affirme-t-il, les 193 millions de francs CFA pouvant servir au paiement des primes de rendement et à l'organisation des élections pour renouveler le bureau du Conseil supérieur de la magistrature sont déjà disponibles.
Les fonds ont été déjà débloqués par le Trésor public dans le compte du ministère de la Justice. Et nous voudrions déclencher le paiement, mais malheureusement, les magistrats ayant été entrés en grève, nous ne pouvons pas déclencher la paix. Je voudrais lancer un appel à tous les magistrats de la République du Tchad. C'est des hommes de loi. Vraiment, je leur demande de reprendre le travail, parce que la justice, c'est comme la santé, ça concerne la vie des gens. Donc, j'aurais aimé que cet appel soit entendu.
Reste à savoir si cet appel sera entendu par les magistrats qui sont déterminés à poursuivre la grève sèche jusqu'à la fin de la semaine. André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Soudan, un groupe paramilitaire soudanais pro-gouvernemental a annoncé dimanche avoir saisi 19 tonnes de cannabis dans la région du Darfour, déchirée par un conflit depuis des années. L'une des plus importantes confiscations de drogue dans le pays. Les forces de soutien rapide, FSR, un groupe controversé qui combat d'ordinaire les rebelles dans cette région de l'ouest du Soudan, 17 ans parés la semaine dernière de 2 véhicules bourrés de hashish après un échange de tirs avec des trafiquants dans l'état du Darfour Sud. Le président américain Donald Trump poursuit sa tournée en Extrême-Orient. Le chef de l'exécutif a estimé ce lundi à Tokyo que le programme nucléaire de la Corée du Nord était une menace pour le monde civilisé. Il a réaffirmé que le temps de la patience stratégique était révolu. Mais le président Trump n'exclut pas, cependant, de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour le convaincre de renoncer à ses ambitions nucléaires, même si le patron de la Maison-Blanche a jugé un tel scénario prématuré. Jean-Roger Bion.
Interrogé dans l'émission Full Measure, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer tout le monde, mais attendons de voir la tournure que ça prend. Je pense que c'est bien trop tôt pour envisager une rencontre au sommet avec Kim Jong-un, a-t-il ajouté. Le président américain avait déjà dit en mai qu'il serait honoré de rencontrer le dirigeant nord-coréen si les conditions étaient réunies. Mais cette hypothèse n'avait pas été réitérée depuis et le ton s'est envenimé entre les deux hommes, notamment après de nouveaux essais nucléaires et de missiles balistiques nord-coréens. Donald Trump a promis le feu et la colère au régime nord-coréen et a même menacé devant l'ONU de détruire totalement la Corée du Nord en cas d'attaque. Il a affublé Kim Jong-un du sobriquet Rocketman ou homme fusée et le dirigeant nord-coréen l'a qualifié en retour de gâteux américain mentalement dérangé. De son côté, la Corée du Nord a encore exclu ces derniers jours toute négociation.
La 23e conférence de l'ONU sur les changements climatiques COP23 s'est ouverte ce lundi à Bonn en Allemagne avec des appels vibrants, notamment de son président fidjien, à agir plus fortement contre le changement climatique. Notre demande collective au monde est qu'il maintienne le cap fixé à Paris avec l'accord adopté fin 2015 contre le réchauffement planétaire, a dit le Premier ministre fidjien et président de la COP23, Frank Bainimarama, lors de la cérémonie d'ouverture. Actualité aux États-Unis maintenant, un homme a ouvert le feu dimanche dans une église du Texas, tuant 26 personnes en plein service religieux lors d'une des pire fusillade de l'histoire récente des États-Unis. Cette tuerie intervient 5 semaines seulement après celle de Las Vegas, au Nevada. La fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays avec 58 morts. Un drame qui avait relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu. Une vingtaine de personnes ont été blessées dans la tuerie du Texas. Les victimes sont âgées de 5 à 72 ans.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.